Je remercie tout le monde d'être venu assister à cette table ronde sur qui aura pour objet le jeu de rôle et la science-fiction. Science-fiction d'aujourd'hui, réalité de demain. Donc comment le jeu de rôle aborde et traite les thèmes de science-fiction. Je regarde, ouais. Je vais vous présenter donc les participants d'aujourd'hui. Enfin, je vais les laisser se présenter, comme ça je serai sûr de ne pas dire trop de bêtises. Vincent le Lab Chef, qui s'occupe donc du site Sci-Fi Universe, je l'ai bien dit. C'est ça. Voilà, tu nous dis en quelques mots de quoi il s'agit, comment on peut vous trouver sur Internet, etc.
Bon, comment on peut nous trouver en tapant l'adresse, par exemple.
Ouais, c'est pas mal.
Sci-Fi Universe, donc c'est un site qui est consacré à la science-fiction et au fantastique. Surtout les médias, le cinéma, la littérature, le jeu vidéo, le jeu de plateau, le jeu de rôle, la musique, les comics, etc., etc., etc.
Très bien. Diane Desposito, qui s'occupe d'un projet transmédia, on va dire,
oui, c'est ça.
Qui comprend notamment du jeu de rôle. Alors c'est pareil.
Oui, donc Corpus Genesis, qui est un jeu de rôle de science-fiction futuriste qui se passe en l'an 5000 sur Terre. Et donc c'est effectivement un jeu de rôle sur table qui se décline également en murder et aussi en jeu de rôle grandeur nature. Donc on a un site internet, corpusgenesis.com.
Okay. Denis Hamon, qui a publié il y a quelque temps un roman de science-fiction.
C'est ça, Les Compagnons du Foudre, qui est là, il est en librairie aussi, en bas, qui est sorti, en fait, qui sort le 4 novembre, qui est en avant-première ici. Et du coup, pourquoi je suis là? Moi, en fait, je suis rôliste à la base, ça fait 10 ans que je fais l'animation jeu de rôle ici aux Utopiales, par intermittence, mais voilà, ça fait un moment que je suis là. Et on va pouvoir, du coup, considérer le biais, enfin, le rapport entre la littérature et le jeu de rôle de ce point de vue-là.
Et Sybille Marchetto, qui, depuis 2014, est présidente de la Fédération française de jeux de rôle dans sa nouvelle incarnation.
Voilà, je suis un peu multiclassée puisque je suis avant tout écrivaine. Je suis également éditrice avec une petite boîte qui publie à la fois des nouvelles de science-fiction et des jeux de rôle, et également directrice d'un festival dans le Sud. Donc voilà.
Alors, dans les conférences précédentes, qui avait pour sujet le jeu de rôle, on a pu parler beaucoup de mécanismes, de jeux, de postures aussi autour d'une table de jeu de rôle classique, de jeu de rôle narrativiste, etc. Là, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur les décors de jeu de rôle et particulièrement les décors de science-fiction. Alors, pour revenir aux bases peut-être et ouvrir un peu large, la première question que je voulais vous poser, c'est: vous êtes plus Star Trek ou Star Wars ?
Star Wars, parce qu'il y a Harrison Ford.
Ah, c'est une bonne raison.
Moi, je trouve Star Wars beaucoup plus riche que Star Trek. Personnellement, je suis trop jeune pour Star Trek, je l'avoue, et j'ai pas regardé les nouvelles moutures. Je suis vraiment resté cantonné à l'univers Star Wars, qui n'est pas tout ce qu'on fait en science-fiction. La science-fiction extraordinaire qui a été faite en littérature, plus qu'au cinéma, je trouve, récemment. Mais Star Wars, c'est ce qui a un peu tout explosé, ouvert toutes les portes, et pour moi, c'est la première révélation science-fiction, même plutôt space fantasy que science-fiction, d'ailleurs.
Star Wars, parce que j'aime bien Dark Vador.
Chacun ses personnages fétiches, ses héros. Et Vincent ?
Eh ben, Star Trek, pour pas faire comme tout le monde.
Ouais.
Star Trek, pour le rapport entre les peuples, surtout, que je trouve un peu sous-exploité dans Star Wars, et voilà, qui est une thématique qui me plaît plutôt bien.
Alors, donc, deux grands classiques de la science-fiction, mais il y a de très nombreux univers de science-fiction qui ont été traités par le jeu de rôle. Alors, récemment, on a vu ressortir un jeu sur Star Wars, bien sûr Star Trek, mais aussi d'autres univers comme Firefly, enfin, plus récents comme Firefly, ou des univers peut-être de rétro-SF aussi, qui ont été traités par tout un tas de jeux qui sont sortis depuis les années 70. En ce moment, on a une nouvelle vague de jeux de rôle de science-fiction, avec le retour d'un classique des années 80, Mega, qui devrait paraître sans doute l'année prochaine. Didier Xerix était là avant-hier pour en parler un petit peu. On va avoir le retour d'un grand classique, Empire Galactique, à sortir normalement en 2017-2018. Et puis, on a eu X-Corps, par exemple, assez récemment. Il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit, peut-être, Vincent ?
Ces dernières années, Warhammer 40 000 qui s'est décliné en jeu de rôle, sur pas mal de jeux de rôle.
Donc, univers de Games Workshop décliné en quatre livres.
Ouais. Il y a aussi Paranoia qui va ressortir chez Sans Détour dans pas très longtemps.
Oui, et puis il y a tous les univers qui sont à la limite entre le cyberpunk et la science-fiction, avec notamment Eclipse Phase, qui contient du transhumanisme, ce qui me permet de te passer la parole, Diane, puisque le projet de jeu de rôle et le transmédia dont vous vous occupez est centré autour du transhumanisme. Tu peux expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, quel est le concept?
Je dirais même que ça se passe après le transhumanisme. En fait, on est en l'an 5000, sous terre, mais la cité dans laquelle on est possède un ciel qui reproduit la lumière du soleil. Donc on a deux niveaux de réalité, donc celui qui est sous terre, donc qui constitue l'habitat des humains, et au-dessus on a une autre race qui a muté. Mais là on n'est même plus dans le transhumanisme, puisque c'est à cause du transhumanisme que l'humain a dû se réfugier sous terre. Donc qu'est-ce que serait le monde après cette forme de dégénérescence, de décadence des robots et de l'accession de l'humain à la technologie à outrance, finalement une prise de conscience, on se dit peut-être que l'humain n'était pas fait pour devenir un robot, on n'a peut-être pas été créé pour ça, et donc est-ce que ce serait pas mieux de se concentrer sur nos facultés naturelles et d'évoluer avec tout ce qui est biologique finalement?
En ce moment, on constate que la science-fiction est moins à la mode que peut-être à la fin des années 60, dans les années 70 et début 80 encore. Il y a un reflux, ça se sent peut-être aussi au niveau littérature de science-fiction. Je vois que Sybille... voilà.
C'est clair que la science-fiction était, on va dire, à son apogée dans les années 60-70. Il y avait de très bonnes ventes et des gros volumes de ventes, ce qu'aujourd'hui on va moins constater. Et il y a un renouveau de la fantasy. On a tous des courants de romances tournés autour de la fantasy, du steampunk. Donc des univers qui sont beaucoup plus cosy, qui sont peut-être un petit peu plus régressifs au niveau des sensations, puisque la science-fiction expose l'humain à la froideur, à la technologie, à son après. Et on va dire, les gens de ma génération, en fait, qui est une génération un petit peu triste, un petit peu désabusée, ont peut-être recherché dans la fantasy des valeurs que la science-fiction permet moins d'avoir.
Il y a quand même un style, un sous-genre, on va dire, de science-fiction qui est bien porteur, c'est la dystopie depuis quelques années avec Hunger Games et les autres grosses ventes qu'on suivit un peu dans la mouvance. C'est peut-être le renouveau de la science-fiction, c'est ça en ce moment. Il y en aura sans doute un autre qui va suivre dans quelques années, je pense.
Enfin, moi, je trouve que la science-fiction actuellement, c'est... Si on considère les adaptations de comics comme un genre de science-fiction, puisque c'est quand même ça, on a eu, si on regarde les gros succès ciné de cette année, bon, tous les films de SF, on a Jurassic Park, Star Wars, Hunger Games, et voilà, je trouve que c'est quand même le genre en ce moment qui explose, sauf que c'est plus forcément sur les étoiles, les autres planètes ou le space opéra, mais plutôt sur je sais pas comment on pourrait appeler ça, de la science-fiction plus terrienne en fait, plus proche de nous.
Donc on est sorti d'une science-fiction un peu monolithique, space opéra à l'ancienne, pour aller vers quelque chose de plus multiforme, en fait, avec des univers très, très diversifiés.
Je sais pas, parce que tous les films là dont on parle, c'est un peu Disney qui essaie d'inonder le marché, souvent plus par la quantité que la qualité, et ils rachètent les licences, et puis ils balancent des films en espérant que ça va engranger de l'argent. Donc si c'est qu'un seul... en gros, ça veut dire qu'on peut faire de l'argent avec de la science-fiction, mais après le côté qualitatif derrière, il n'est pas toujours là, quoi.
C'est un autre souci, ouais.
tu disais Disney rachète les licences, il y a une réutilisation d'anciennes licences ou d'anciens univers. Force est de constater qu'au niveau jeu de rôle, il y a aussi un retour des grands classiques, et notamment, j'ai cité au début Empire Galactique, Mega, etc., sont des jeux des années 80. Donc on peut dire que le jeu de rôle fait la même chose, recycle des grands classiques.
Je vais être un peu cruelle avec le monde du jeu de rôle, mais je crois que c'est plutôt les quarantenaires qui ont maintenant de l'argent et qui veulent retrouver les sensations qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans. Donc c'est peut-être une crise de la quarantaine plutôt pour nous.
Est-ce que dans le public, ceux qui ont 40 ans, vous pouvez lever la main, vous dénoncer? J'en vois un en pleine crise de la quarantaine, un autre là-bas. C'est terrible, la crise de la quarantaine.
En fait, je voulais juste témoigner d'un jeu de rôle auquel j'ai participé l'année dernière. C'était justement une version de Murder de Star Wars. Et je tiens à préciser que les organisateurs n'ont pas simplement calqué le scénario de Star Wars pour faire de l'argent pour leur asso en disant « bon, bah, on n'invente rien, c'est plus facile ». Absolument pas. Ils ont recréé un scénario inédit avec justement le référentiel de Star Wars pour que le joueur s'y retrouve. Mais au final, c'était quand même une création originale. Il y avait des nouveaux personnages. On était quand même à la cantina. Il y avait quand même l'univers Star Wars. Même si les personnes qui ont participé ne connaissaient pas tous Star Wars du bout des doigts, c'était quand même très accessible et je me suis très bien amusée. Donc c'est quand même pas toujours utilisé à mauvais escient.
Alors, souvent dans les équipages des vaisseaux ou des navires de science-fiction, on retrouve le schéma classique de la bande de PJ. J'aurais dû le dire dans l'autre sens. On retrouve souvent une bande de PJ dans les vaisseaux de science-fiction. Est-ce que c'est le cas dans le roman que tu as publié? Est-ce qu'on est sur une équipe de personnages joueurs?
Ouais, complètement. D'ailleurs, j'ai fait jouer mon équipage de personnages en personnages de jeu de rôle hier et avant-hier ici sur le salon. J'ai peut-être des joueurs là qui sont là, je ne sais pas. Ça s'est très bien passé parce que clairement c'était fait pour. Enfin, on est vraiment dans la bonne thématique comme on a dans Firefly par exemple, à laquelle énormément de rôlistes ont pu s'identifier, qui est pour moi une grosse inspiration parce que je trouve que c'est formidable ce qu'elle a fait Joss Whedon sur cette série. Et clairement les limites du vaisseau font qu'on a un groupe d'individus qui sont tout le temps ensemble. C'est le rêve de tout maître de jeu évidemment.
Ils sont confinés à l'intérieur du vaisseau, donc c'est une sorte de huis clos en fait. Ça leur évite d'avoir à se séparer.
C'est ça, c'est le cauchemar du maître de jeu. Hein. Les joueurs qui se séparent, il y en a un qui va enquêter à gauche, il y en a un qui va enquêter à droite, c'est un gros problème. Alors évidemment, avec le vaisseau, on a un contrôle là-dessus. Forcément, dès qu'on les rassemble, qu'on les met ensemble dans le vaisseau, c'est bon. On sait qu'ils sont tous ensemble, ils vont nulle part.
Cette contrainte, ça t'a guidé ou ça t'a...
Moi, j'adore les relations entre les êtres humains. Ouais. Et je trouve que quand dans le huis clos justement du vaisseau, ils sont tous les uns sur les autres. Il y a un rapport de hiérarchie, mais en même temps, il y a un rapport d'amitié qui se met en place. Et je trouve que la confrontation entre les deux est souvent assez intéressante à mettre en place. Moi, j'adore les histoires d'amitié. Donc, j'ai adoré écrire dans ce contexte-là où tous sont très, très proches. Il faut absolument qu'ils se serrent les coudes parce qu'ils sont vraiment, vraiment dans l'embarras dans beaucoup de moments.
Alors, je ne sais pas avec quelle règle tu as fait jouer la partie.
Un système perso. Ouais.
D'accord. Mais puisqu'on parle de vaisseau et d'équipage, dans les jeux de science-fiction, il y a toujours un gros point noir, c'est le système de combat spatial. Alors ça, parfois il faut sortir la calculatrice scientifique. Enfin, en tout cas, moi, quand je jouais dans les années 80, c'était la calculatrice scientifique. Maintenant, on peut même s'aider d'algorithmes perfectionnés pour résoudre la trajectoire de la torpille, etc. Est-ce que c'est important cet aspect technique? Alors là, c'est le combat, mais ça pourrait être d'autres aspects. Ces aspects techniques-là, est-ce qu'on s'y accroche encore, ou au contraire, est-ce que c'est pas quelque chose qui ralentit le jeu, qui alourdit le jeu, etc.
T'es pas technicienne.
Non, ouais, non.
Moi personnellement, j'ai trouvé que pour moi c'est secondaire le réalisme d'un combat spatial dans un jeu de rôle. Moi c'est mon point de vue. Autant j'adore le réalisme dans un combat physique parce que on peut savoir exactement ce que c'est parce que ça peut se vivre. Quand un combat spatial, on ne peut pas le vivre. Donc l'important que ce soit dynamique, que ce soit fun et que ce soit vite fini surtout pour qu'on puisse continuer.
Ouais, donc c'est un passage obligé mais un peu contraignant quoi.
Moi je trouve, ouais.
Ouais, en fait, moi je trouve que dans beaucoup de jeux de rôle qui ont pu sortir, dans ces jeux de rôle de science-fiction, le côté technique, il est toujours très présent et les systèmes de jeu sont toujours très complets en fait. Si on prend des jeux Eclipse Phase, Warhammer, Polaris, ce genre de choses, ce ne sont pas des jeux à tendance narration partagée, c'est des jeux dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles, dans lesquels la technologie a une influence très forte en termes de mécanique de jeu. Voilà, on a des listes d'équipements, on a des listes de vaisseaux, voilà. Et c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, enfin qui peut être difficile à rendre dynamique, mais qui est la plupart du temps au cœur du jeu quand même.
Un autre jeu de science-fiction qui a eu un gros succès depuis 2009-2010 et jusqu'à aujourd'hui quasiment, c'est Space Adventures de Arnaud Cuidet. Effectivement, on retrouve un certain nombre de suppléments qui présentent des vaisseaux, qui présentent des planètes extraterrestres, un bestiaire, des trésors, etc. Donc on retrouve finalement derrière une logique qui est celle du jeu de rôle de Heroic Fantasy, qui est celle de donjon à la base pratiquement quoi. Donc
ouais, bah moi j'ai l'impression que le plaisir du joueur en fait, c'est pas d'avoir un vaisseau, c'est de choisir son vaisseau. Quand on va jouer à Star Wars, on va avoir des listes de vaisseaux et il y a quand même un plaisir avec les autres membres autour de la table que de choisir lequel on aimerait avoir, plutôt un vaisseau cargo, plutôt un vaisseau de combat, ce genre de choses. Et oui, et ça, voilà, c'est forcément des éléments qui amènent dans les livres de jeux de rôle des bouquins entiers d'équipements quoi, des véritables catalogues. Et il y a des jeux qui s'assument complètement. Si on prend Polaris par exemple, il y a un supplément qui s'appelle le guide technique et on tourne les pages et c'est une sorte de catalogue IKEA de l'univers de Polaris dans lequel on peut acheter ce qu'on veut en termes de technologie quoi.
Alors Polaris, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est de la science-fiction, mais sous-marine, on peut dire.
C'est un Star Wars sous-marin, voilà.
Star
c'est
Wars
ça.
sous les 20 000 lieues sous les mers. Quand on conçoit un univers de grandeur nature, du coup, pour ton projet, est-ce qu'on a aussi en tête ce genre de problématique, c'est-à-dire avoir des options, des catalogues de choses que l'on peut posséder, avec lesquelles on peut briller, ou bien on se concentre avant tout sur les interactions? Comment vous avez réfléchi la création?
Je me suis pas bridée en me disant attention le système de jeu, attention le catalogue. Non. L'important c'est de s'éclater. Donc si moi je m'éclate, très probablement les joueurs vont s'éclater. Maintenant ma difficulté ça va être de le rendre accessible aux joueurs. Ce qui est compliqué c'est que c'est un cross-platform, donc il y a des règles spécifiques pour le JDR sur table. Donc comme je masterise pour l'instant moi-même, je ne me suis pas contrainte à proposer des options aux joueurs. Ils font tout ce qu'ils veulent. Je leur dis si c'est possible ou pas. Je leur laisse un champ d'action libre. Je ne veux pas les brider. Ils me demandent ce qu'ils veulent faire. Je dis oui, non. Et en général, ça se passe très bien. Il n'y a jamais eu de soucis. Ils n'ont jamais eu beaucoup de lecture en briefing avant le jeu. Ça se passe bien. Après, pour le jeu de rôle, on a quand même effectivement un contexte d'univers à expliquer. Mais... on laisse aussi la possibilité aux joueurs d'avoir de la créativité, que ce soit sur son costume, sur les membres de la famille qu'il veut développer, s'il veut faire une faction. Maintenant, au niveau du système de jeu, on va essayer de développer une application mobile sur place, de manière à éviter d'avoir des points orgag, des files d'attente pour demander si ça c'est possible ou pas. On va avoir un catalogue en ligne de pôles d'action ou d'objets qu'on peut acheter ou autre, en consultation, de manière à ce que on soit dans l'immédiateté. Voilà.
Toujours sur cette conception d'univers de grandeur nature, comment est-ce que vous avez choisi l'esthétique sur le site que vous proposez? Il y a beaucoup de visuels qui sont assez évocateurs. Comment vous avez décidé de l'esthétique des différents lieux? Et d'une façon générale, qu'est-ce que ça vous inspire, la question de l'esthétique en science-fiction?
Alors l'esthétique en science-fiction, en tout cas pour un auteur ou un créateur, ça reste quand même très subjectif et très personnel finalement, donc c'est une interprétation que je propose avec des couleurs très claires. Donc évidemment il y a toute une symbolique de couleurs derrière, les matériaux qui sont utilisés, des notions écologiques, en tout cas dans le scénario, hein, je veux dire inhérent à l'univers en lui-même. Des raisons politiques qui justifient tel ou tel type d'architecture, type de quartier, et puis également les influences, hein, on est toujours influencé, on n'invente jamais vraiment rien, on a toujours des influences. Moi j'ai adoré le cinquième élément quand j'étais jeune, donc finalement on retrouve un peu de ça, puis d'autres personnes vont retrouver autre chose, et puis finalement c'est un univers qui est collaboratif, parce que finalement le jeu de rôle en tout cas que j'ai conçu est sous licence Creative Commons, donc finalement il y a des orgas qui vont arriver et m'écrire en disant ah, j'ai envie de proposer ceci cela, pas de souci, on discute, on va rajouter finalement c'est un univers qui est créé en collectivité et c'est les joueurs qui vont déterminer la fin de l'histoire.
Je pense que la notion d'esthétique est importante parce que ça peut vraiment déterminer deux types de science-fiction, parce que depuis tout à l'heure là, on est en train de parler de la science-fiction au sens mon vaisseau spatial et tout ça, donc c'est très space-op, donc c'est limite de la science-fantasy. Et à côté de ça, on va avoir en littérature une science-fiction plus triste, plus dystopique, dont on parlait au début. Donc je pense que l'esthétique est un point important, parce qu'en général, quand on aborde le côté esthétique, c'est qu'on cherche du rêve, du merveilleux, des gros vaisseaux spatiaux, des cités magnifiques, le cinquième élément. Oui, c'est vraiment un truc à citer. Alors que quand on cherche une science-fiction d'anticipation, on va délaisser les costumes, les vaisseaux, les immeubles. Donc on pourrait dire que l'esthétique définit un peu la limite science-fiction, science-fantasy. Je trouve ça assez intéressant comme façon de regarder les univers.
Je trouve que ce soit en anticipation ou en science-fiction plus space-op ou Je trouve que le côté vieilli, je trouve est hyper important. Moi, ce que j'aime, c'est quand les vaisseaux ils sont rouillés, quand il y a des boulons partout, quand c'est bricolé. Il y a une époque de la science-fiction, notamment Star Trek, où tout était propre au tout début. Il fallait que le vaisseau il soit tout neuf, et c'est Star Wars qui a un peu apporté le vaisseau qui tombe un peu en rade, qui est pas hyper fiable. Là, nous, on a tous conduit des voitures. Une voiture, ça tombe en rade. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ça tombera toujours en rade. Et je pense que c'est dans cette esthétique-là qui finalement nous raccroche à un univers qui, en fait, nous dépasse par son côté merveilleux, nous permet quand même de nous identifier.
Donc, si je te comprends bien, tu préfères voler sur une poubelle, mais il faut qu'elle soit rapide, quoi.
Rapide ou pas, mais si c'est une poubelle, ça me rappelle ma vieille Clio, c'est vachement bien.
Ok. Un point intéressant aussi, c'est que dans les jeux de rôle de science-fiction, on peut souvent jouer des êtres extraterrestres, pas dans tous, mais très souvent. Mais en règle générale, ce sont des êtres humanoïdes. Tant qu'on en reste aux Wookiees, par exemple, ou à ce genre de créatures, peut-être un peu plus grandes, un peu plus petites, un peu plus poilues, ça va encore. Mais ça devient difficile de jouer dans toutes les situations lorsque on essaye d'incarner, je ne sais pas moi, un être immatériel, ou vraiment trop grand, ou vraiment trop petit, etc. Est-ce qu'on réfléchit à ça quand on crée donc un univers qui peut être décliné en GN, où il y a des contraintes de costumes, de décors, ou bien quand on écrit un roman et on se dit, il va falloir que ce soit que les extraterrestres restent dans une certaine norme, sinon je vais avoir des soucis de
situation. Dans Corpus Genesis, on a 7 races distinctes, dont 3 qui sont très anthropomorphes. Le reste, c'est vraiment une contrainte de costume. Les joueurs doivent en être conscients. Et s'ils veulent encore aller plus à l'extrême, ils peuvent jouer ce qu'on appelle des PNJ, donc des personnages non-joueurs. Et là, ça peut être vraiment des créatures gigantesques, que ce soit en animatronics, on va faire appel à des marionnettistes. Ou carrément, si c'est vraiment trop grand, on va faire du mapping 3D. Donc, au niveau logistique, tout est possible. Il faut juste avoir les équipes qu'il faut au moment qu'il faut. Mais pour moi, c'est pas une contrainte.
Même si tu as un droïde qui peut pas monter les escaliers, par exemple.
Ben, on fera en sorte que le personnage qu'on va concevoir puisse évoluer dans sa logique et que ce soit techniquement faisable. Donc on va s'adapter quand même. Mais après, on va pas faire exprès de faire quelque chose qu'on n'y arrive pas juste pour relever un défi, quoique ça peut être un bon défi à relever. Mais pour l'instant, j'ai pas encore rencontré de vrai handicap parce qu'il y a toujours eu moyen de trouver un consensus général.
Alors moi, mon bouquin, il se passe entièrement sur Terre, plutôt à la Nausicaa au niveau. Donc il y a des vaisseaux, mais c'est des vaisseaux, c'est des aéronefs qui restent à l'intérieur de la surface de la Terre. Donc du coup, il n'y a pas de vie extraterrestre. Les seules créatures qui ont réellement muté, c'est ceux qui sont à la surface et qui sont qui sont des animaux, quoi. Des animaux, qui sont bêtes et méchants. Ils attaquent à vue quasiment tout le temps, et ils se font souvent cribler de balles d'ailleurs. Mais par contre, c'est vrai que moi, je trouve ça. On parlait de Star Trek tout à l'heure avec le rapport entre les races. C'est vrai que le rapport entre les races extraterrestres, c'est hyper intéressant parce que ça permet de mettre en jeu vachement d'éléments de tolérance, d'intégration, qui sont des thématiques qui sont hyper importantes au niveau de l'actualité et qu'on peut refléter du coup dans les univers de science-fiction.
Ouais, et puis on est en jeu de rôle, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension d'interprétation, une dimension d'amusement en fait derrière. Il faut que les joueurs puissent s'imaginer ce qu'ils sont en train d'interpréter en fait. Une civilisation extraterrestre, c'est une autre civilisation, une autre culture, une autre manière de penser. Déjà, c'est assez compliqué dans un jeu de rôle de science-fiction que d'interpréter tout ça. Si en plus on leur dit, tu joues un triangle. Donc c'est qu'est-ce que ça peut donner ludiquement autour d'une table que de jouer quelque chose qui sort complètement de nos conceptions habituelles. Est-ce que ludiquement c'est possible?
Moi j'ai une expérience assez traumatisante de jeu de rôle dans mon lointain passé de joueur de Rift. Alors Rift, c'est un jeu américain qui a malheureusement jamais été traduit en français, mais où je jouais dans ce jeu-là on peut jouer des dauphins télépathes. Je jouais un dauphin télépathe. C'était assez contraignant parce que je ne pouvais pas vraiment sortir de mon bocal. Et tout se passait globalement bien jusqu'au jour où, malheureusement, on s'est écrasé en plein désert. Et là, la communauté de pensée avec mes collègues de la bande de personnages joueurs, c'est un peu, c'est rapidement effiloché. Il y a des limites quand même, des contraintes. Est-ce que en science-fiction, on peut se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas se permettre de dire dans la vie de tous les jours? Est-ce que ça peut permettre de briser certains tabous ou aller plus loin que le politiquement correct?
Je dirais que c'est plutôt l'inverse, parce que j'étais en train de faire une association d'idées. En général, on utilise la fantaisie pour faire des choses justement politiquement incorrectes, puisque la fantaisie est à une époque barbare. Enfin, j'exagère, hein, je grossis vraiment le trait, mais à une époque barbare où il y a plus de violence, plus de domination du fort sur le faible et tout ça. Et au contraire, en science-fiction, on essaie souvent de se projeter dans un futur où il y aura plus de politiquement correct, plus de cohabitation entre les races extraterrestres. Donc je ne suis pas certaine justement que la science-fiction se permette, la violence que la fantasy se permet. Donc la science-fiction a vraiment un rôle, comment ce sera demain, et ça doit porter des rêves ou alors carrément du cauchemar pour dire attention, vous êtes en train de tout polluer. Mais il n'y a pas cet espace de liberté qu'on a en fantasy, il me semble.
Tu trouves que c'est un genre plus contraint alors?
L'autre jour, je faisais un atelier d'écriture et j'avais demandé aux participants de me faire un exercice pour la prochaine fois sur la science-fiction, et ils m'ont dit comment tu définis la science-fiction. Et en fait, c'est un genre très difficile à définir parce que c'est une sous-catégorie de la fantasy. En fait, on prend de la fantasy où on peut tout se permettre et on va se rajouter des contraintes pour arriver à la science-fiction. Donc, on va se rajouter respect de la science dans le futur ou dans l'anticipation, etc. Et en général, on va aussi chercher à se projeter. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va se passer et tout? Donc, c'est quand même un genre où on va se rajouter plus de contraintes qu'on va s'en ôter. Donc, je ne vois pas comment on pourrait se permettre trop... C'est un peu faux ce que je dis. On va se permettre de critiquer la société actuelle, mais on va le faire avec des valeurs utopistes, des valeurs forcément bonnes, moralement acceptables, il me semble. Et un peu, c'est ça, Star Trek. C'est quand même porteur d'un message très moral.
Est-ce que ça vous est arrivé de jouer... J'enchaîne sur ton idée. Est-ce que ça vous est arrivé de jouer les méchants dans des jeux de science-fiction, ou d'avoir envie de faire jouer les méchants par les personnages joueurs, de jouer des Stormtroopers, de jouer des extraterrestres, prédateurs, etc.
J'ai joué à un jeu de rôle où c'était les joueurs qui avaient tous un rôle de méchant, et c'était les figurants PNJ qui avaient tous un rôle de gentil. C'est-à-dire que c'est pas parce que habituellement au cinéma on se met plutôt du côté du gentil que du coup le héros est gentil. Le jeu de rôle, c'est beaucoup plus large. Et même, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément obligé de se catégoriser, de se donner un genre ou de se mettre dans une case. Par exemple, Corpus Genesis, on m'a déjà dit « Ah, mais c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plus de l'imaginaire parce que en fait ça se passe OK sur Terre, mais les races, c'est plus du fantastique ». Oui, si tu veux, c'est pas grave. Ah, mais c'est plutôt du cyberpunk, parce que là, ça répond à tel critère sur Wikipédia. Oui, si tu veux, mais en fait, je cherche pas en fait à me ranger quelque part. Le mieux, c'est de pas se brider, comme je disais tout à l'heure. Donc, si on a envie de jouer un personnage méchant, pourquoi pas?
Donc, pas de case, pas d'étiquette, pas d'alignement.
Sauf si...
L'anarchie complète, quoi.
Sauf si c'est handicapant pour le jeu en lui-même, si le scénario n'est pas viable... Enfin, tant que ça suit une logique, tant qu'on arrive à se projeter et surtout tant qu'on arrive à s'immerger dans l'univers et que ça répond à des lois qui permettent de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, pas de problème.
Ouais, et les jeux de rôle en général proposent des choses. Alors, on a des jeux dans lesquels on va jouer des méchants ou des gens qui travaillent pour les méchants. Si on prend les univers de Warhammer 40 000, par exemple, on travaille pour l'Empire, donc a priori on n'est pas des gens super bien, quoi. Alors que voilà, au contraire, un jeu comme Metal Adventure par exemple, on joue des pirates de l'espace, mais des pirates plutôt sympas dans la veine Cobra. On a une charte de déontologie, tout ça. Donc le jeu en général annonce clairement dès le départ si on va jouer plutôt des gentils, plutôt des méchants, plutôt des gens entre les deux. Mais jouer des méchants, c'est quelque chose qui est possible. Et puis et vu le succès des jeux Warhammer, que pas mal de gens aiment bien, je pense.
Moi, je trouve que l'alignement, c'est assez vieux comme notion et ça m'amuse pas du tout. Je trouve que quand on regarde un groupe d'êtres humains, qui est-ce qui lève la main, qui est-ce qui est gentil là, qui est-ce qui est méchant, Alors, on est tous, non, toi t'es méchant, toi, je sais. On est tous juste des gens, quoi. Et c'est des trucs que je trouve formidables dans des univers comme Watchmen, par exemple, où même les super-héros, ils sont ni bons ni mauvais, ils font ce qu'ils peuvent. Et des fois, ils font des conneries. Il y en a même qui sont carrément hyper violents, mais ils ont l'impression de servir une grande cause ou d'avoir un but qui leur permet de faire le genre d'atrocité qu'ils commettent. Et c'est, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est, voilà, on a aussi, je reparle de Firefly, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est super bien écrit. Et les personnages, ils font ce qu'ils peuvent. Ils ont un code de l'honneur, mais en même temps, des fois, quand il y a un mec non armé qui est dans leur chemin, bah des fois, il prend une carte touche quand même, quoi. Et moi, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que les gens, ils font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, quand ils peuvent, et je trouve ça dommage de cantonner un groupe de personnages joueurs, par exemple, ou un groupe de personnages dans un roman ou dans un film, à, bah, ils sont bons, donc ils vont faire le bien, et ils sont méchants, donc ils vont faire le mal. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage.
Ouais, tu voulais rajouter quelque chose, Sybille, ou non ? Parce que finalement, Diane, ouais.
Game of Thrones, c'est pas des gentils, pas des méchants, ils ont tous des objectifs, tous des envies. C'est pour ça que, par exemple, dans Corpus Genesis, on peut pas dire, enfin, sur le site, on n'a pas dit, vous choisissez un méchant ou un gentil. Chaque personne a un objectif de vie, a des raisons de se battre pour quelque chose, ça peut être mal vu d'un point, de certains points de vue, bien vu d'un autre point de vue, et finalement, il n'y a pas de gentil et de méchant. On fait ce qu'on pense être bon pour nous, mais ça va être mauvais pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait... ça reflète plus la réalité finalement.
Donc on sort des grandes oppositions, des grandes confrontations manichéennes entre les blancs, les noirs, les gentils, les méchants.
Normalement, notre avis. Normalement, dans une bonne histoire, le méchant doit être un petit peu gentil. On doit pouvoir s'identifier à ce qui fait tout ça. Et les meilleurs méchants ont toujours une part très humaine, très attendrissante et tout ça. Donc la base du méchant, c'est sa gentillesse, et la base du gentil, c'est le moment où il va faire un truc tordu et où il va un peu nous décevoir. Donc ça a toujours été implicite dans n'importe quelle histoire.
Alors il y a une citation célèbre qui dit que lorsque la science est particulièrement développée, on n'arrive pas à la distinguer de la magie. Évidemment, la magie dans le jeu de rôle, c'est quelque chose qu'on connaît bien, qui parcourt tous les univers de fantasy. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours une explication technique, rationnelle, scientifique à donner à ses joueurs, ou bien on peut se contenter d'un ta gueule, c'est technologique.
En tout cas, dans le domaine du jeu de rôle, on a quand même des règles à respecter, sinon le référentiel disparaît et on ne comprend plus ce qu'on a le droit de faire ou pas de faire, et il n'y a rien de plus frustrant qu'un joueur qui ne comprend pas ce qu'il peut faire exactement et jusqu'où il peut le faire parce que c'est pas clair. Et alors quand on choisit en plus le registre de la science-fiction, on peut pas dire c'est magique. On est obligé de dire parce que dans cet univers, il y a cette technologie qui permet de faire ça. On doit l'admettre, on est obligé de l'admettre. Et c'est des règles qu'on doit admettre. Si on n'est pas d'accord avec, bah forcément on va bloquer sur l'univers. Mais finalement, ça respecte aussi la même chose que dans l'univers de la magie, où il y a des règles de la magie qu'il faut respecter. Mais on ne peut pas faire un jeu sans règles, parce que sinon, il y aura trop de confrontations de systèmes de jeu.
Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, la science-fiction, c'est quand même vraiment super, super large. Je sais pas, je pense que la plupart des gens considèrent que Star Wars, c'est de la science-fiction. On pourrait tout à fait voir ça comme du fantastique, en fait.
Ou du western.
Ou du western, ouais, bon, tout, on a des sabres laser, des vaisseaux qui font du bruit dans l'espace. Bon, c'est... Et finalement, ouais, entre magie et technologie, la nuance est vraiment subtile. C'est-à-dire qu'on va avoir la technologie va juste se justifier par le fait qu'on va avoir un objet qui va pouvoir permettre de faire ça. Mais finalement, la cohérence ou se demander si oui ou non c'est techniquement possible de se téléporter, d'aller à la vitesse de la lumière. Bon, la frontière entre les deux est quand même de plus en plus vague, quoi.
Je me dois te protester. Star Wars ne peut pas être de la science-fiction. Je suis obligée de la faire, celle-là.
Je suis
d'accord. Non, clairement, Star Wars est de la fantasy, obéit à tous les codes de la fantasy. C'est là où je dis, c'est plutôt la science-fiction qui doit être considérée comme un sous-genre de la fantasy. Donc là, je vais me faire tuer parce que je suis aux utopiales, donc personne, voilà. Bon, c'est bon, il n'y a pas de témoin. Donc Star Wars est clairement de la fantasy et obéit à tous les codes de la fantasy. Il y a la quête, il y a la magie, il y a le grand maître qui te conduit sur le chemin et tout ça. Donc c'est très gênant parce qu'en fait, on parle de science-fiction et le grand public ne connaît pas la définition. Donc déjà, peut-on parler de science-fiction ?
Y a-t-il une définition à la science-fiction ?
Ben, il n'y en a pas, je crois pas, à ma connaissance. Enfin, vas-y.
La définition académique, on me corrigera dans le public, parce qu'il y a un expert, mais le merveilleux accepté, c'est la fantasy, le merveilleux acceptable, c'est la science-fiction, acceptable par le biais de la technologie en général, et le merveilleux non accepté, effrayant, c'est le fantastique. Voilà, ça, c'est la définition académique. Ouais.
Dans vos souvenirs de joueurs et de joueuses, quel est le jeu de rôle de science-fiction qui vous a le plus marqué, celui auquel vous avez pris le plus de plaisir à jouer ?
Alors, je ne vais pas parler de plaisir, mais je vais parler de marqué. Récemment, j'ai joué à Eclipse Phase. Donc, j'ai découvert ce jeu qui en fait un jeu horrifique. Et à la fin de la partie, on s'est tous fait bouffer par une truc méga monstrueuse et tout. Donc, ça m'a beaucoup marqué. Mais comment dire, je n'ai pas envie d'y retourner.
Ça t'a fait peur ?
Carrément, ouais.
Non, mais il faut faire attention, elle est sensible. Hein, faut...
Moi, c'est Shadowrun, clairement. Ouais, clairement Shadowrun.
Donc là, Eclipse Phase, Shadowrun, on est sur des jeux qui sont à la limite entre plusieurs univers, cyberpunk...
Cyberpunk fantasy, du
fantasy,
coup.
Fantasy, voilà, ouais. Horreur aussi. Et on peut trouver d'ailleurs un peu ça dans Shadowrun certaines fois. Diane ?
Je pense que je peux pas répondre parce que les jeux auxquels j'ai joué qui m'ont vraiment marqué, c'était pas vraiment dans la catégorie science-fiction. Il y a deux jeux qui m'ont vraiment plu, c'est Z-Corp, mais ouais. Bon, c'est pas de la... Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un peu de l'horreur zombie, mais bon, après ça se passe dans le monde d'aujourd'hui, il y a des technologies ou des armes qui existent pas vraiment. Oui, c'est du fantastique, ouais.
La version science-fiction de Z-Corp, c'est X-Corp, maintenant.
X-Corp, ouais. Ah oui, voilà, c'est ça.
Les zombies se réclament quand même vraiment de la science-fiction, pour le coup. Les zombies, ils se réclament vraiment de la science-fiction au niveau genre, quand même. Ouais, ouais.
Et Vincent ?
Alors si on peut considérer comme ça, enfin si on peut considérer ce jeu comme de la science-fiction, c'est un jeu qui s'appelle Shaan et voilà, donc il était sorti dans les années 90 et voilà, c'était un jeu dans lequel on jouait des extraterrestres sur une planète qui était colonisée par les humains. Voilà, j'avais 16 ans quand c'est sorti et il y avait une dimension politique dans le jeu, voilà, qui m'avait beaucoup parlé, quoi, le jeu qui servait un peu de miroir à notre société en fait.
Alors Shaan, qui est donc comme tu disais un jeu des années 90, qui a une particularité, c'est d'avoir inspiré peut-être, préfiguré, ou en tout cas, il y a un point très intéressant, c'est qu'on retrouve des aliens dans Shaan qui ressemblent à s'y méprendre à ceux qu'on avait redécouvert ensuite dans le film Avatar.
Oui, notamment. Mais Avatar c'est exactement le même principe en fait. C'est voilà, ça se passe sur une autre planète, il y a des extraterrestres avec les humains technologiquement plus forts qui les asservissent pour pomper toutes les ressources de la planète. Donc il y a vraiment ce point commun entre le jeu de rôle et le film.
Et Shaan est ressorti récemment sous le titre Shaan Renaissance. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelles sont les nouveautés, les points communs, les différences avec l'ancienne version du jeu ?
Alors, dans la première édition de Shaan, les humains avaient imposé un empire dictatorial qui fonctionnait par la domination militaire, en fait. Donc, on soumet les populations, les natifs de cette planète en leur tapant dessus. Et donc, ce qui se passe au bout d'un moment, à force de taper sur les gens, c'est qu'ils finissent par se révolter. Donc, du coup, voilà, les esclaves sont plus difficiles à contrôler. Et la civilisation humaine a évolué d'un empire militaire vers un empire libéral et capitaliste dans lequel on a servi la population, non plus en lui tapant dessus, mais en la forçant à consommer, en fait, en la maintenant prisonnière de ses désirs et en l'obligeant à travailler pour se payer les trucs qu'elle a envie, les merdes qui lui servent à rien, quoi. C'est la grosse évolution de l'univers du jeu.
Okay. J'avais vu une main se tendre vers le micro, Sybille.
On a parlé d'Avatar, donc je suis obligée de troller. Mais moi, surtout dans Avatar, j'ai trouvé les elfes de World of Warcraft. Hein, je voudrais pas dire, mais
ça fait un public, hein, c'est sûr. Hein, c'est...
Alors, il nous reste, voilà, on est quasiment dans le dernier quart d'heure. Quel est le projet de science-fiction auquel vous auriez aimé participer ou vous aimeriez participer ? Quel univers vous aimeriez développer en dehors de vos projets à chacun, à chacune? Qu'est-ce qui vous branche bien? Est-ce que vous aimeriez être un personnage de Firefly? Est-ce que vous aimeriez figurer dans le prochain Star Wars? Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ces... Ou à quel jeu de rôle de science-fiction vous aimeriez collaborer, peut-être écrire un scénario, écrire une campagne?
Je suis obligée de dire une bêtise, mais vu l'acteur pour changer, mais vu l'acteur principal de Firefly, je voudrais bien être rôle là-dedans.
tout de suite. Non, sérieux, quoi. Par contre, le vrai projet de science-fiction auquel j'aimerais participer, ce serait Real Life et qu'on fasse enfin des trucs cool sur Terre, quoi, tu vois.
Ouais, moi, c'est Firefly, hein. Clairement. Le 14e épisode m'a laissé avec un gros, 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 gros goût de non terminé, non achevé. Et même le film ne suffisait pas à remplir cet univers qui est extraordinaire. Et on avait encore plein de choses à apporter là-dedans. C'est vraiment un gâchis monumental qu'il n'ait pas été terminé. Donc, mais bon, après, du coup, je pense que ça a inspiré énormément de gens à créer des choses qui ressemblent ou qui sont dans l'esprit, dans la filiation de Firefly. Et donc, ça a été hyper positif au niveau production, je pense.
Encore en train de réfléchir.
Moi, quand j'étais petit, j'étais un Jedi, par exemple. Mais
quand j'étais petit, je voulais être un alien.
Ouais.
Donc peut-être que bon, après c'est passé, voilà. Mais si j'avais pu, ou si c'était plus tôt, peut-être que j'aurais aimé participer à les créations des décors, développement du personnage, scénario.
Bon, je vais être affreusement cliché. Quand j'étais petit, je voulais une DeLorean. Donc ouais. Donc voilà. Sinon, oui, sur les projets, un des films par exemple qui m'a marqué, c'est Dark City d'Alex Proyas. Mais d'une manière générale, j'aime bien quand la science-fiction interroge notre rapport à la réalité, à ce qu'on appelle la réalité. Et voilà, Dark City en parle, et je trouve un des films qui en parle le mieux.
Qu'est-ce qu'on peut faire vivre comme expérience aux personnages des jeux de rôle de science-fiction, expérience marquante? Comment est-ce qu'on peut les placer face à des dilemmes? Quelles sont les spécificités des univers de science-fiction pour mettre les personnages et donc les joueurs qui incarnent ces personnages face à des dilemmes, face à des choix?
Il y en a un facile qui vient tout de suite en tête, c'est qu'en science-fiction, tu peux faire péter une planète. Et une planète, ça veut dire des millions de gens, ça veut dire des systèmes qui peuvent s'écrouler, tout ça. Ce que tu vas pas trouver sur un monde unique, on va dire, parce que si tu fais péter la planète, et ben c'est terminé, tu pètes avec. Donc je pense que ça, c'est pas mal intéressant et on va le retrouver, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tuer des milliards de gens pour en sauver 10 000? Enfin, on grossit vraiment les enjeux. Tuer une personne pour en sauver 10 000, c'est facile. Enfin, et plus ça devient gros, plus ça devient compliqué. Donc ça, c'est pas mal.
On va reparler du vaisseau dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, le crash du vaisseau, là, c'est un peu la destruction de l'âme de l'équipage. Moi, c'est le genre de dilemme face auquel je trouve ça intéressant de mettre les personnages. Quand il n'y a plus de vaisseau, qu'est-ce qui reste, quoi? Qui on est en tant que groupe d'individus, hiérarchie, plus d'hiérarchie, comment on fait? Je trouve que souvent dans les films de science-fiction où il y a des vaisseaux, le vaisseau c'est le personnage en plus, quoi. Serenity dans Firefly, c'est le 9e personnage, le Faucon Millenium qui n'est pas fan du Faucon Millenium, extraordinaire ce vaisseau. Et voilà, et quand on le crache, qu'est-ce qui se passe? Alors on touche quelque chose qui fait peur à tout le monde, quoi.
C'est vrai qu'on a souvent un supplément d'âme par l'intermédiaire du vaisseau, dans Albator, le 101e homme d'équipage, dans Ulysse 31, l'intelligence artificielle, dont j'ai oublié le nom, mais... Diane ?
Ce qui est badass pour un joueur, c'est de pouvoir aussi, dans un jeu, de pouvoir créer une nouvelle race, de rajouter un petit peu sa patte ou sa création dans l'encyclopédie du jeu. Moi, je permets ça. Il y a d'autres jeux qui le permettent, comme Nothingness, par exemple, un jeu de rôle sur table médiéval fantastique. Les campagnes des joueurs font à la fin de l'année changent littéralement l'encyclopédie du jeu pour l'année d'après. Donc il y a des dieux qui meurent, ce qui vraiment change tout au tout, des pays qui disparaissent, des races qui sont créées. Donc c'est pas toujours dans la destruction. Détruire une planète, ok, mais pourquoi pas en créer une autre dans la foulée, et voilà, c'est un cycle.
Terraformation, créer de nouveaux univers. Et Vincent, donc la question des dilemmes,
des choix, voilà, c'est ça. Bah, utiliser la science-fiction pour faire un miroir de notre réalité et puis voilà, inciter les joueurs, les amener à réfléchir par le prisme d'un univers qui peut être plus beau, plus coloré, plus sympa, quoi. Mais réfléchir sur notre société.
Tu parlais tout à l'heure donc de la nouvelle version de Shahan où on se trouve. Face à finalement une sorte de dictature du marché de grande consommation, c'est ça? Si je résume bien.
C'est ça, oui.
Ouais. Est-ce que c'est cette question du libéralisme économique comme modèle qui a gagné finalement, qui a mis fin à l'histoire et donc qu'on va retrouver partout, y compris dans les univers de science-fiction, c'est quelque chose qui vous interroge? Si je prends les grands classiques de la SF, tous les univers sont libéraux finalement, pratiquement. ou dictatoriaux ou libéraux.
Oui. Star Wars, c'est pas libéral du tout.
Ah, ça dépend des époques.
T'as un empire. Oui, mais
ça dépend des époques.
On va dire ce que le public connaît, c'est les trilogies principales, et on est vraiment d'un côté un empire. Et je suis en train de me dire que la rébellion, on nous définit pas de système économique. Hein. On parle pas d'économie dans Star Wars. On sait pas trop. Enfin, je veux dire, t'as les planètes à l'extérieur, il y a du commerce traditionnel, mais ordinaire comme autrefois. Mais il n'y a pas d'économie. On ne sait pas si Dark Vador il a un traitement à la fin du mois. Enfin, sérieux, est-ce qu'il touche sa paye ?
C'est quand même le DRH de Palpatine. Donc,
combien est payé Dark Vador ? Tout le monde se pose la question.
On imagine qu'il a sa chemise. Enfin, sa cape, pardon.
Est-ce qu'il a plusieurs casques ? Est-ce qu'il a plusieurs casques ? Est-ce qu'il échange ? Enfin, est-ce qu'il se lave ? Est-ce qu'il se mange ? Enfin,
est-ce qu'il mange ? Est-ce qu'il est aux frais réels, effectivement ?
Oui, voilà, enfin... Les frais de déplacement. Ça, enfin, du coup, je suis obligée de rebondir. Il y a, bon, c'est en fantasy, c'est Jean-Claude Dunia qui écrit L'instinct du troll. Et le troll va chercher ses frais de déplacement, enfin, retourne sur sa mission pour trouver ses frais de déplacement. Mais c'est vrai qu'on n'aborde jamais ces questions pourtant essentielles.
Bon, on va trouver ça dans la littérature quand même. Si on prend des œuvres phares, Fahrenheit 451 ou Ravage, c'est, enfin, voilà, on va avoir des sociétés comme ça. Mais peut-être qu'on a plus le temps de les développer en littérature ou en jeu de rôle qu'au cinéma où il faut que ce soit rapide. Et puis, bon, voilà, c'est quand même long de décrire une société qui impose son modèle de domination sur un modèle économique. Alors que finalement, quand on a Dark Vador et l'étoile noire, bon, on comprend bien pourquoi il domine le reste, quoi.
Le combien ça coûte en jeu de rôle est toujours important. Combien ça coûte à un blaster, ah ouais. Combien ça coûte à un vaisseau spatial,
carrément. Ouais.
Combien ça coûte à une armure.
Bah c'est comme ça qu'on fait évoluer. Chasseur de primes. C'est comme ça qu'on fait évoluer les joueurs aussi. C'est un peu la carotte quoi, dans un jeu de rôle de space opéra. Quand on veut un gros vaisseau, comme voilà, celui qui est là par exemple, on sait que ça va coûter une blinde et que bah, il va falloir qu'on en fasse des aventures quand même pour mettre de l'argent dans la cagnotte et pouvoir se le payer ou le voler. Ça finit souvent en vol hein, quand même. Voilà, il y a pas de le vol est toléré en science-fiction. Hein, ouais. Ça, c'est...
Il y a aussi des joueurs qui adorent faire du shopping, quoi. Enfin, la liste d'équipements au niveau moment de la création. Alors, dans un jeu comme Shadowrun, par exemple, c'est flagrant. 1 million de nuyens. Ok, c'est parti. Alors, la voiture à 300 000, le flingue à 100 000. Voilà. Enfin, c'est bon. Pour moi, c'était des mathématiques qui m'ont toujours saoulé et jamais j'ai rétabli ça dans mes jeux les plus récents, dans les jeux que j'ai créés les plus récemment. Pour moi, c'est t'es un guerrier, t'as une grosse épée, y a pas de problème. Voilà. Et après, on a l'équipement logique et puis faut vite jouer, quoi. Et pourtant, dans les années 90, j'ai l'impression que c'est 80-90, c'était hyper important d'avoir la liste d'équipements super précise.
On a derrière nous, puisque tu l'évoques, on a derrière nous donc une illustration de Manchu qui signe cette année l'affiche du festival des Utopias. Quels sont les illustrateurs ou peut-être les cinéastes qui vous ont le plus inspiré les univers graphiques visuels? Manchu a signé de très nombreuses illustrations pour des livres de science-fiction, mais aussi pour des jeux de rôle. Pense notamment à Heavy Metal, Empire Galactique, bon, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce qui vous a inspiré en termes de graphisme?
Moi, je vais reciter, on a cité tout à l'heure le cinquième élément, qui a été pas mal décrié parce que c'est Luc Besson, intellectuellement, ça fait bien de critiquer Luc Besson. Mais moi, le cinquième élément, ça reste un de mes gros coups de cœur parce que c'est de la SF française, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi, mais ça nous parle, quoi. Donc, c'est vraiment des univers qui sont chouettes. Bon, Star Wars, ça reste magnifique. Et voilà...
Moi, j'adore les vaisseaux des aliens. Je trouve que James Cameron, donc c'est lui qui a fait le deuxième Alien, mais aussi tous ses films de science-fiction, qui ont un design extraordinaire. Et les vaisseaux, tant dans Avatar que dans Aliens, donc le deuxième, sont formidables. Mais tous les aliens, on voit dans le quatrième aussi, le design est vraiment génial. Alors là, on est encore dans de la science-fiction française, puisque c'est Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur. On sent vraiment la patte derrière et c'est Joss Whedon qui écrit le scénario et qui nous présente une équipe qui est aussi extraordinaire, une équipe de PJ là dans le quatrième Alien qui est extraordinaire. Et pour moi, c'est ouais, les vaisseaux d'Alien, ils sont assez centraux dans ma conception de la chose.
James Caron, mais Bilal avant, hein. Bilal et oui, parce que une association d'idées. Bilal et Giger avant, je voulais dire. Giger qui a créé l'univers. Oui, c'est vrai. Mais comment dire, du coup, effectivement, il y a deux univers graphiques qui se rejoignent dans la direction artistique de l'œuvre cinématographique. Et ça fait des hybridations d'univers, c'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Pourquoi je disais Bilal aussi ? Parce que c'est d'abord une BD, mais qui est passée ensuite en film et qui s'est déclinée après. Il y a eu des expos il n'y a pas longtemps, mais ça reste des univers effectivement assez sombres, mais riches. Et c'est là où la poésie ressort plus, les éclats de lumière ressortent plus, quand justement il y a beaucoup de négatifs. Dès qu'il y a voilà, une lueur d'espoir qui arrive, c'est vraiment la révélation, c'est ce genre d'univers qui me parle beaucoup.
Moi, Alien aussi, mais bon, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien quand dans les films ou dans les illustrations, quand les vaisseaux ont l'air d'avoir un peu vécu, en fait. Tu vois, quand, voilà, dans la prélogie de Star Wars, je déteste le fait que les vaisseaux soient flambant neufs, nickel, où on dirait qu'ils sortent de l'usine. Voilà, j'aimais bien, voilà, dans les premiers Star Wars, où voilà, c'était rouillé, ça fonctionnait pas. Ou dans Alien, avec cette espèce de côté organique, où on sent vraiment que c'est pas des décors de cinéma, en fait. Il y a peut-être des choses qui se sont passées dedans, parce qu'on s'est chargé en histoire.
Alors, on aborde les cinq dernières minutes. Moi, je voulais profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs des Utopiales de permettre au pôle ludique de proposer des tables rondes, des conférences sur le jeu de rôle. C'est la 15e édition des Utopiales. C'est pas si vieux que ça. La Fédération française de jeux de rôle, par exemple, est plus ancienne, hein, 1996. C'est une chance d'avoir un festival comme celui-là en Bretagne, ici à Nantes. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas ? Pardon, oui, dans la capitale de la Bretagne. Oui, dans la capitale de la Bretagne, ici à Nantes, pardon, oui, j'avais oublié capitale, excusez-moi. Et donc, je voulais vous demander, la question sérieuse derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on apporte de soi, de son origine, de sa région d'origine, de son pays, de sa culture, dans les univers de science-fiction qu'on est amené à concevoir. Est-ce qu'on apporte des choses, ou bien est-ce que la science-fiction est obligatoirement une science-fiction occidentale, anglo-saxonne, est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, des particularismes locaux ou ethniques, etc., niveau de l'approche de la science-fiction?
Moi, je pense que quand on me lit, on reconnaît la façon de parler qu'on a, moi, mes copains, dans notre cercle, qu'on parle pas toujours très bien, parce qu'on est entre nous, donc on fait pas trop attention. Et alors, on parle, c'est une façon très orale de parler. Et pour moi, c'est la façon de parler qui me vient naturellement quand je suis à l'oral. Et du coup, j'ai restitué ça dans mes dialogues. Alors, c'est complètement incorrect. Hein, un perso qui va dire, c'est qu'est-ce que je dis ? Oui, écoute, c'est qu'est-ce que je dis ? Voilà, ils parlent mal, ils disent il y a des apostrophes partout. Mais pour moi, c'est l'oralité. Et je pense que les gens qui connaissent ou qui connaissent la région ou qui ont discuté avec des gens qui parlent pas très très bien, mais qui sont du coin, ils vont reconnaître le patois local.
Le patois local, ouais. Les accents en science-fiction, vous préférez toujours la version originale ou la version française ?
Oula, vaste débat.
Ouais. Il doit rester 4 minutes. Est-ce qu'on apporte quelque chose qui vient de notre passé, notre enfance, de notre culture ?
Bah, de toute façon, Diane l'a dit tout à l'heure, on n'invente rien, donc chacun de nous reparle de son expérience, de son histoire. La science-fiction est une littérature et un jeu de rôle comme les autres, donc c'est forcément nous, et en même temps c'est pas nous. Après, sur le problème, on va dire, de est-ce qu'on apporte quelque chose de sa région, personnellement, n'appartenant pas à une région, je suis pas confrontée à ça, donc...
Ou même d'une culture, tu vois, francophone, anglophone, etc., etc. La science-fiction, jusqu'à aujourd'hui, elle est quand même essentiellement... occidentale, en fait, hein. Il y a assez peu.
C'est juste qu'on lit pas chez les autres, hein, c'est tout. Non, manque de traduction. C'est pas vrai. Enfin, c'est.
Il y a bien entendu des auteurs qui viennent des pays émergents, Brésil, Afrique
mais
du Sud.
Mais t'as toute une littérature russe qui est pas traduite, asiatique, voilà. Oui, mais enfin, il y a peu de traductions. C'est très difficile d'avoir des traductions russes. Voilà. Enfin, je veux dire, non, c'est juste qu'on est des gros ignares en France et qu'on parle pas les langues étrangères, hein. Enfin, c'est tout.
Pas qu'en France, visiblement, parce que si je regarde les films de science-fiction américains...
Ouais. Ah bah le marché anglophone, exactement comme nous, on est complètement fermé aux œuvres étrangères. Alors, en France, il y a le Japon qui est en poupe, donc heureusement, ça permet de présenter des choses quand même qui sont un petit peu différentes et qui viennent de là-bas. Et chose géniale, parce qu'il y avait un auteur qui était de Taipei, qui était ici invité aux Utopiales et qui présentait une vision qui était complètement différente de la science-fiction que ce qu'on est habitué à voir ici en Occident. Et c'était vraiment intéressant. Et il nous en faut plus, la traduction, voilà, comme tu dis, de pays émergents ou d'autres cultures qui ne sont pas la nôtre et qui peuvent apporter énormément d'angles d'approche sur la science-fiction que nous, on n'a pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes conceptions.
Vincent peut-être, ou Diane, Vincent, un jeu de rôle de science-fiction qui soit pas anglo-saxon ou francophone.
Waouh.
Question piège.
Question piège, ouais.
Les Japonais peut-être.
J'ai pas de en science-fiction, j'ai pas d'exemple là sous la main. Mais c'est vrai qu'en jeu de rôle, comme au cinéma ou en littérature, on a surtout de l'anglo-saxon. Et, enfin, c'est le premier jeu japonais à être édité. C'était un jeu de fantasy et c'était il y a 2-3 ans peut-être. Tu vois. Donc Ryutama,
on a, par exemple,
ouais,
on a Cobra par exemple qui est apparu il y a quelques temps.
Mais Cobra, mais... c'était quand même très influencé occidental.
Voilà,
comme
il est très occidentalisé dans son approche.
Ouais.
Donc on se retrouve toujours avec les sempiternels personnages. Anglo-saxon ou occidentaux en tout cas.
Ouais, si on prend Cobra ou Albator, j'ai pas l'impression que ce soit une vision tellement différente, mais bon, elle est à mon avis sous les mêmes influences que celles qu'on connaît. Et en même temps, si les influences avaient été très différentes, je pense pas que ce sont des séries qui seraient arrivées jusqu'ici. Donc non, c'est pas faux.
Donc on aime la science-fiction, on aime l'ailleurs et l'étrange, mais on... Mais pas trop quand même.
Ben, on n'a pas l'opportunité non plus. Enfin, je veux dire, on parle pas toutes les langues, mais en même temps, on peut pas non plus parler le cyrillique ou le contraire. Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a quand même un travail des éditeurs aussi que de proposer ce genre de littérature qu'on ne connaît pas au public, mais. En faisant partie du public, c'est difficile d'aller la chercher quand.
En librairie, j'ai du mal à trouver des œuvres traduites. Souvent, ça reste assez européen ou alors anglo-saxon, mais c'est vrai qu'on en trouve moins.
Mais ça marcherait. Enfin, ce serait pas non plus des succès, tu vois. On produirait pas Avatar non plus, mais je pense que ça intéresserait quand même une partie du public que de voir ce qui peut se faire ailleurs. Ouais, ça pourrait vraiment être intéressant et ouvrir d'autres univers.
Très bien, écoutez, il me reste à remercier tout le monde, le public, d'être venu écouter cette table ronde, et puis les participants, bonne chance pour vos projets.
Merci.
J'espère qu'on se reverra ici l'année prochaine pour l'édition 2016. Merci tout le monde, bonne journée.
À bientôt.